Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Vous écoutez votre émission Tourne-Page, présentée aujourd'hui par Catherine Fox avec Paolo Davi à la technique. L'été arrive, les vacances sont proches, par conséquent c'est le temps idéal pour mettre en pratique une petite sieste. À vous le petit bruit des oiseaux, des cigales si vous êtes dans le sud. J'ai donc décidé de lire un livre avec des recommandations pratiques sur la sieste sur mesure pour soi et selon les besoins variables de notre corps. Ce livre s'appelle « Sauvé par la sieste, petit somme et grande victoire sur la dette du sommeil ». Ce livre est le résultat d'entretien avec Brice Farreau, mis en forme par Cédric Weiss. Il a été publié en mars 2019 chez Actes Sud. Je dois tout d'abord vous confesser que j'ai été très attirée par son titre, mais aussi par l'illustration de la couverture. Imaginé dans un style japonisant, l'on voit des futons, ces matelas de coton japonais, entièrement recouverts de tissus aux motifs typiques du pays du soleil levant, et dessus font la sieste trois chats blancs tachetés de brun, de noir, couleur écaille, les yeux fermés bien sûr. Si vous n'aimez pas les chats, passez outre et concentrez-vous sur le titre prometteur. L'auteur Brice Farreau est docteur en neurosciences. Il fait et dirige des recherches sur les effets de la privation et de la récupération de sommeil, non chez les chats, mais chez l'être humain. Il a travaillé à l'Université libre de Bruxelles et depuis 2014, il est en France, à Paris, au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel Dieu, Université Paris 5 Descartes, dans l'équipe VivaSom, ce qui veut dire vigilance, fatigue, sommeil et santé publique. Dans son livre, vous apprendrez le rôle des trois phases du sommeil et comment la sieste va vous aider. Il faut tout d'abord savoir que le sommeil comprend une série de 4 à 6 cycles entrecoupés de réveils dont on ne se souvient pas dans la mesure où ils n'excèdent pas quelques minutes. Dans chaque cycle, 3 types de sommeil se succèdent, c'est ce que Brice Farreau appelle la valse à 3 temps. Ils se succèdent en continu, un sommeil lent et léger, un sommeil lent et profond, et le sommeil paradoxal pendant lequel nous rêvons et nos yeux bougent beaucoup à ce moment-là. Brice Farreau explique comment les ondes cérébrales ont des fréquences différentes suivant les temps. Sachez que l'être humain n'est pas le seul à naviguer avec des ondes différentes pendant son sommeil. Les grands mammifères, le kangourou d'Australie et une souris d'Amérique connaissent également les ondes alpha, theta et delta et roulent des yeux en rêvant. Pour revenir à nous humains, les besoins de sommeil varient suivant l'âge. Le bébé dort bien, 16 à 17 heures par jour. De 24 heures. L'enfant aussi, entre 10 et 12 ans, il dort entre 10 et 12 heures. L'adolescent un peu moins, 9 à 10 heures, et l'adulte se stabilise, mais avec le passage des ans. Les longues nuits qui nous donnent l'impression d'être frais et dispo sont parfois de l'ordre du souvenir. Brice Farreau explique que les différents stades du sommeil changent avec l'âge et que le sommeil lent, profond, récupérateur est moins présent. Mais, la sieste peut efficacement contrebalancer les effets délétères de nos nuits vieillissantes. Je cite, ce n'est pas moi qui invente. Sachez aussi qu'il existe 3 types de dormeurs. Les petits dormeurs, qui sur une période de 24 heures n'ont besoin que de 5 à 6 heures de sommeil, environ 7% de la population. Les moyens dormeurs, 7 à 8 heures. Les gros dormeurs, au moins 9 heures, qui représentent eux 10% de la population. Il s'agit là de sommeil effectif testé en clinique et non de sommeil déclaré, car on a souvent des impressions erronées sur son sommeil. Si vous avez le sentiment de mal dormir, sachez que vous n'êtes pas seul. En 2013, la Fondation nationale du sommeil, NSF, aux États-Unis, a fait une enquête. 70% de personnes interrogées au Japon disaient manquer de sommeil. 69% aux États-Unis et au Mexique, 63% en Allemagne et 58% au Canada et au Royaume-Uni. Selon l'INSV, en 2014, les Français se levant en majorité à 6 heures du matin pour aller au travail dorment en moyenne 6 heures et 56 minutes par nuit. J'ajouterai que même si vous n'allez plus au travail, votre corps a souvent pris l'habitude de cette heure de réveil et continue à remonter vers la conscience à l'heure habituelle. D'autres facteurs perturbent le sommeil, tels le travail de nuit ou les horaires décalés. Pensez aux infirmières et aux chauffeurs routiers. Mais les enfants aussi, dès l'école maternelle, souffrent d'un déficit de sommeil pour des raisons d'organisation évidentes et cela se traduit par un déficit d'attention qui, lui, peut entraîner des échecs scolaires. Les mêmes effets sont connus par les adultes, une vigilance diminuée, parfois imperceptiblement, et cela entraîne des erreurs dans le travail ou pire, des accidents sur la route. Vous trouverez dans le livre un questionnaire sur l'état habituel de somnolence. Cela aide à prendre conscience des besoins de notre corps qui envoie ainsi un signal. Le manque de sommeil entraîne souvent aussi une sensibilité accrue à la douleur, la mauvaise humeur et la dépression sournoise à laquelle on n'est pas suffisamment attentif. Cela entraîne aussi une fragilité aux virus et aux microbes. Le manque de sommeil est aussi un facteur contributif important aux maladies cardiovasculaires, l'obésité et au diabète. Donc je pense que vous êtes maintenant peut-être convaincu que le sommeil est absolument indispensable. Car en effet, cela va beaucoup plus loin qu'un rafraîchissement de l'humeur et un repos des muscles. Le sommeil, nous dit Brice Faro dans son livre « Sauvé par la sieste », le sommeil en lui-même est un médecin. Il est nécessaire à la reconstruction de notre corps. Les organes qui produisent la cinquantaine d'hormones qui sont essentielles à l'être humain pendant sa vie préfèrent attendre que nous dormions pour passer à l'action. C'est le cas pour l'hormone de croissance chez l'enfant. Cette même hormone de croissance est nécessaire à l'adulte pour la régénération cellulaire. La testostérone, hormone bien connue des hommes, est produite de façon prédominante pendant certaines phases du sommeil et fort peu en journée. La leptine et la gréline, hormones qui signalent respectivement la satiété et l'augmentation d'appétit, et stimulent l'appétit donc, sont déréglées par le manque de sommeil, ce qui favorise un appétit du diable et la sensation de faim tout au long de la journée. L'obésité est au rendez-vous. Le sommeil permet aussi un grand nettoyage de l'organisme, en éliminant notamment l'urée et les fameux radicaux libres dérivés de l'oxygène et qui sont à l'origine du stress oxydatif. Le cerveau produit lui aussi des substances toxiques par le fonctionnement de son 100 milliards de neurones qui s'activent furieusement pendant la journée. Il faut donc bien lui permettre de se reposer par un sommeil en quantité suffisante. N'avez-vous pas remarqué que la mémoire fonctionne mieux si vous n'êtes pas en manque de sommeil ? Pendant la période d'activité consciente, le jour, le cerveau doit pouvoir subvenir aux besoins énergétiques d'un grand nombre d'opérations. C'est pourquoi l'intensité des connexions entre neurones, qui conduisent à l'apprentissage et par conséquent à sa mémorisation, est relativement fragile. J'espère que vous êtes convaincu de la nécessité du sommeil. Mais comment faire pratiquement pour avoir davantage de sommeil si vous n'êtes pas un petit dormeur heureux ? Comment mener sa sieste ? Avec humour, Brice Faro nous dit dans le chapitre « La sieste ou le réveil de la force » « Faites parler le siesteur qui est en vous ». Il faut acquérir l'habitude de la sieste et se rendre compte que l'on n'est pas un paresseux coupable. Au contraire, plus vous acceptez l'idée de bienfaits de la sieste, plus vous en serez récompensé par une vigueur renouvelée. Une attitude d'acceptation et de relaxation aide à l'endormissement. Et n'ayez crainte, on sort du sommeil d'une courte sieste très facilement par un réveil sans douleur et naturel. Dites-vous aussi que le bébé que vous étiez fait beaucoup de siestes, le matin, en début et en fin d'après-midi. Comme le disait un des slogans de mai-juin 68, nous sommes tous d'anciens bébés. De plus, entre midi et 16 heures, le cerveau est un peu moins rapide et nous nous en rendons compte tous. Pratiquement, quelle position adopter ? Si vous êtes chez vous, le luxe, c'est de s'allonger sur un lit ou un canapé, car le bénéfice en est que plus prononcé. Néanmoins, vous pouvez vous réveiller plus heureux et rafraîchi si vous êtes assis confortablement dans un fauteuil, si et cela est très important, le dossier est incliné en arrière. Quant à la tête sur les bras croisés sur un bureau, pourquoi pas ? L'important, c'est de relâcher les muscles de la nuque. Quelle est la durée optimale ? Les durées optimales pour Brice Farot varient entre une dizaine de minutes, une demi-heure et une heure ou un peu plus. Les siestes de 30 à 90 secondes ne donnent pas grand-chose. Le temps des durées que je viens d'énoncer ne comprennent pas le temps nécessaire à l'endormissement, qui est souvent d'environ 10 minutes. Les bénéfices positifs en réaction cognitive testée après une sieste de 10 minutes apparaissent dès la cinquième minute après le réveil et persistent de 100 à 150 minutes, soit près de 2h30. La sieste de 20 à 30 minutes prend effet une demi-heure après le réveil, mais persiste au-delà de 150 minutes. Moins vite, mais plus durable. La sieste longue, elle, permet au cerveau de se réparer, de nettoyer, de se reconstruire, et la vigilance objective dure 5 heures au moins après le réveil. Attention, la sieste longue n'est pas recommandée aux personnes âgées. Il vaut mieux qu'elles aient recours à des siestes d'environ 20 à 30 minutes en début d'après-midi. Avec humour, Brice Farot nous informe que les siestes sont les épicures du sommeil. Elles n'ont pas besoin d'être trop longues pour apporter le bonheur. Alors quand ? Matin, midi, soir ? Des tests faits en Californie, au centre de recherche en santé Naval à San Diego, démontrent qu'après des périodes de veille de 45 à 53 heures d'affilée, c'est-à-dire de plus de 2 jours d'affilée, la sieste de 2 heures entre 4 heures et 6 heures du matin avait moins de conséquences bénéfiques en récupération de la vigilance et des performances cognitives que la sieste du milieu de journée entre midi et 14 heures. Les siestes de début d'après-midi vers 15 heures semblent présenter un endormissement plus rapide, une plus grande efficacité récupératrice et un réveil plus facile que les siestes de fin d'après-midi. L'horloge biologique en nous à ses préférences et la taille de notre dette de sommeil n'y fait rien. Pour les lèvres tôt, une sieste de début d'après-midi est plus rémunératrice. Pour les lèvres tard, il vaut mieux plus tard dans l'après-midi, tout en veillant à laisser 6 heures de veille entre la fin de la sieste et le coucher le soir. Le réveil. Le réveil, me direz-vous, eh bien, il faut se programmer quand on s'endort. Quand on est prêt à s'endormir, en se disant « je vais me réveiller dans 20 minutes ou 30 minutes ». Ou alors, prenez un café, car le café met 20 minutes à prendre effet, et donc vous aurez à ce moment-là une sieste de 20 minutes. À la fin de son livre, Brice Farot nous donne un résumé des bienfaits de la sieste et ses astuces pour en tirer le maximum. Il nous donne des règles d'or pour s'endormir et des avantages et inconvénients des différents types de siestes. Pour résumer, avec la sieste, à nous la belle vie. Je dirais donc merci Brice Farot d'avoir publié chez Actes Sud dans la collection Questions de santé, sauvé par la sieste, avec le délicieux sous-titre Petit somme et grande victoire sur la dette du sommeil. Cher public de Radio Grand Ciel, vous pouvez réécouter cette émission, sans vous endormir j'espère, sur votre site radiograndciel.fr. Allo Dévi à la technique et moi-même, Catherine Fox, vous souhaitons une excellente lecture. Je vous dis à bientôt sur Tournebage, Radio Grand Ciel. Au revoir.